Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 27 mai 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Mali, une vingtaine de villageois ont été tués samedi par des hommes armés dans une localité du centre du pays. Un exercice militaire d'envergure regroupant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo est en cours depuis le début de la semaine dans l'ouest du Niger. Au Soudan, au moins 134 personnes ont péri dans les combats qui font rage depuis plus de deux semaines dans la ville d'El Fasher. Dans notre partie magazine, au Burkina Faso, les assises nationales ont décidé ce week-end de prolonger la transition de 5 ans.
Elle devrait normalement aboutir à un changement de régime pour peut-être permettre à une diversité d'acteurs pour gérer les problèmes du pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Une vingtaine de villageois ont été tués samedi par des hommes armés dans une localité du centre du Mali. C'est ce qu'ont indiqué hier des sources locales qui avancent un bilan provisoire de 18 morts et 21 blessés. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'attaque a visé des habitants d'un village à 3 km de Dialassagou, du cercle de Bankas, dans la région Mopti, l'une des zones où des groupes djihadistes mènent une insurrection depuis 2012. Selon le maire de Bankas, Moulay Guindo, des assaillants armés non identifiés avaient attaqué des villageois alors qu'ils se rendaient à leur champ. L'attaque a également été confirmée par une source policière et un élu local qui ont respectivement mis en cause des terroristes et des hommes armés. Un élu de Bandiagara a confié sous anonymat que toutes les victimes sont des populations déplacées installées à Dialassagou. Nous avons demandé au gouvernorat de région d'assurer la protection des populations, a-t-il poursuivi. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. En juin 2022, plus de 130 civils avaient été tués à Dialassagou, une tuerie qualifiée à l'époque de l'une des pires au Mali au cours des dernières années.
Le président des Comores, Azali Assoumani, réélu en janvier au premier tour pour un troisième mandat à l'issue d'un scrutin dont les résultats ont été contestés par l'opposition, a été investi dimanche lors d'une cérémonie à Moroni. Monsieur Azali a officiellement obtenu en janvier 57,2% des voix à la présidentielle, lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029. En Tunisie, le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires sociales, ont été remplacés au pied levé hier soir lors d'un remaniement ministériel surprise après une vague d'arrestations dans la société civile faisant craindre un nouveau recul des libertés dans la jeune démocratie tunisienne. Le président Kais Saied a décidé de nommer Khaled Nouri au ministère de l'Intérieur sans aucune explication, en remplacement de Kamel Fekir, considéré jusque-là comme un proche du chef de l'État. Kamel Madouri, un technocrate, sera le nouveau ministre des Affaires sociales à la place de Malek Zahi, qui avait aussi l'oreille du président. En outre, un poste de secrétaire d'État a été créé au ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité nationale et confié à Sofine Ben Sadok, selon le communiqué. Un exercice militaire d'envergure regroupant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo est en cours depuis le début de la semaine dans l'ouest du Niger pour renforcer la coopération militaire régionale dans la lutte contre les groupes djihadistes. C'est ce qu'a annoncé hier dimanche le ministère nigérien de la Défense. Davantage avec Nani Talani.
Un exercice national d'envergure est en cours depuis lundi au centre de formation des forces spéciales à Tilia, une zone où sévissent les groupes djihadistes, indique le ministère. Il ajoute que cet exercice est le fruit d'un partenariat militaire entre le Niger et des pays amis tels que le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad. Il comprend des manœuvres tactiques et des initiatives visant à renforcer les liens avec les populations locales. Cet exercice, qui prendra fin le 3 juin, a été initié dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'AES face à toute menace potentielle, explique le ministère. Il s'agit des premières manœuvres militaires conjointes du genre entre les cinq pays, tous confrontés à divers degrés à des violences djihadistes. Le centre d'entraînement de Tilia, qui abrite l'exercice, a été financé par l'Allemagne et est opérationnel depuis juillet 2021. En septembre 2022, les États-Unis ont doté le dit centre d'équipement militaire d'un coût de 13 millions de dollars, essentiellement plusieurs types de véhicules, dont des blindés.
En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, promet de détrôner aux élections législatives mercredi l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Mercredi, l'ANC perdra la majorité dont il a abusé pendant des décennies, la majorité qu'il a utilisée pour plonger ce pays dans le chômage, la corruption et la mauvaise gestion, a promis à plusieurs milliers de partisans le chef de l'Alliance démocratique, John Steenhuisen, 48 ans, avec le slogan « Sauvons l'Afrique du Sud ». Au moins 134 personnes ont péri au Soudan dans les combats qui font rage depuis plus de deux semaines dans la ville d'El Fasher. Selon un bilan actualisé fourni dimanche par l'ONG Médecins Sans Frontières, Abdoulaye Dia nous en dit plus.
Seule capitale des cinq États du Darfour a échappé au contrôle des FSR et épargnée par les violences jusqu'ici, El Fasher accueille de nombreux réfugiés et fait office de hub humanitaire pour cette vaste région de l'ouest du Soudan menacée par la famine. Le 10 mai, cependant, des combats intenses y ont éclaté, faisant craindre un nouveau tournant alarmant dans le conflit, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Selon l'ONU, la ville est de fait soumise à un siège avec des routes bloquées et une circulation dangereuse ou faisant l'objet de restrictions. Les organisations humanitaires appellent à autoriser de nouvelles entrées d'aide humanitaire, l'ONU craignant que les stocks disponibles au Southern Hospital ne permettent de couvrir que les besoins de la semaine à venir. Le conflit au Soudan a déjà fait des dizaines de milliers de morts. À El Geneina, capitale du Darfour Ouest, 10 000 à 15 000 personnes ont été tuées selon l'ONU et près de 9 millions de personnes ont été déplacées par les violences.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit dimanche fermement opposé à la fin de la guerre dans la bande de Gaza, toujours sous les bombes. Une réunion de son cabinet de guerre s'est tenue dans un contexte d'intenses tractations diplomatiques pour parvenir à une trêve. Les précisions de Yacouba Ouédraogo.
La réunion du cabinet de guerre à Tel Aviv devait évoquer les efforts destinés à obtenir une libération d'otages retenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, ayant déclenché la guerre qui se poursuit. Peu avant, Netanyahou a accusé Yahya Sinwar, le chef du Hamas, de continuer d'exiger la fin de la guerre, le retrait des forces de défense israéliennes à Gaza et de laisser le Hamas intact afin qu'il puisse perpétrer encore et encore les atrocités du 7 octobre. C'est ce qu'a déclaré son bureau, ajoutant que le premier ministre s'y opposait fermement. Dans la bande de Gaza, les frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé notamment Rafah, malgré une décision vendredi de la Cour internationale de justice ordonnant à Israël de suspendre ses opérations dans ce secteur essentiel à l'entrée de l'aide humanitaire. Les efforts internationaux se poursuivent pour arracher une trêve entre les belligérants. L'Égypte poursuit également ses efforts pour réactiver les négociations, tandis que des responsables qataris devaient rencontrer une délégation du Hamas dans les prochains jours. Par ailleurs, à partir de mardi, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège devraient reconnaître officiellement l'État de Palestine.
La reconnaissance de l'État de Palestine n'est que justice pour le peuple palestinien, a affirmé dimanche à Bruxelles le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. Les Palestiniens ont le droit d'avoir un État comme les Israéliens ont ce droit, a ajouté le ministre lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre palestinien Mohamed Mustafa. L'Espagne est qui est à l'œuvre, à la manœuvre depuis des mois pour rallier d'autres pays a pris cette décision conjointement avec l'Irlande et la Norvège. Ils reconnaîtront un État palestinien à partir de ce mercredi. 28 mai, le sujet divise l'Union européenne qui peine à trouver une position commune depuis le début de la guerre à Gaza. Un responsable de l'ONU en Papouasie-Nouvelle-Guinée a estimé dimanche à plus de 670 morts le bilan du glissement de terrain qui a enseveli un village de ce pays du Pacifique Sud où les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver d'éventuels survivants. On estime que plus de 150 maisons ont été ensevelies et que plus de 670 personnes sont mortes, a déclaré Aaron Aktoprak, fonctionnaire pour les migrations à l'ONU. Le glissement de terrain est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi au centre du pays, prenant de court les habitants d'un village qui ont été ensevelis sous des amas de boue et de gravats pendant leur sommeil. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Togo, 685 établissements, dont 213 hôtels, sont reconnus par les autorités après une opération de recensement menée par le ministère du Tourisme et de la Culture qui a permis de les déclarer en conformité avec les normes en vigueur. Sont également approuvés par les autorités des motels, auberges, maisons d'hôtes, restaurants, figurent également des bars, centres de loisirs et plus de 180 agences de voyage. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 240 millions de dollars à Maurice pour la deuxième phase du programme d'appui à la compétitivité et à la résilience économique. Le programme doit soutenir des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, comme un projet de loi sur la pêche visant à dynamiser le secteur et une mesure pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'agro-industrie. L'Afrique du Sud veut déposer une plainte auprès de l'OMC contre le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, risquant de lui causer un préjudice économique, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. La taxe carbone européenne va imposer des taxes sur les importations de produits à forte intensité de carbone à partir de 2026. Elle s'appliquera d'abord sur le ciment, l'acier, le fer, l'aluminium, l'engrais, l'électricité et l'hydrogène.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Ozine et bonjour à tous.
La balle au panier pour commencer avec la suite des playoffs de la Basketball Africa League à Kigali au Rwanda.
Oui, et Al Ahly du Caire ne défendra pas son titre, battu 86-77 en quart de finale par les Libyens d'Ali Benghazi grâce à un énorme Majok Deng, auteur de 25 points. L'autre sensation vient des Sud-Africains de Cape Town qui ont sorti l'autre favori, les Marocains du Fus du Rabat 91-88 après prolongation. Les deux derniers cas auront lieu ce lundi. En première heure, les Nigériens de Rivers Hoppers jouent les Tunisiens de l'US Monastir et puis à 18h temps universel, l'AS Douala de Dakar, finaliste de la précédente édition, jouera sa place dans le dernier carré contre les Angolais du Petro Atlético de Luanda.
En football, Al Ahly du Caire a confirmé son statut de géant d'Afrique en remportant sa 12e Ligue des Champions devant l'Espérance de Tunis.
C'est la conclusion d'une longue saison des clubs remportée par le club égyptien qui conserve son bien. Une 12e couronne, la 4e en 5 éditions, un record tout simplement. Après le nul blanc du match aller, Al Ahly, tout en maîtrise, s'est contenté d'une courte victoire de 1-0 face à l'Espérance de Tunis dans un stade international du Caire gonflé à bloc pour rentrer un peu plus dans la légende. L'Égypte vient de réaliser le grand chelem cette saison, la Ligue des champion et la Coupe CAF. La Super Coupe qui mettra aux prises Al Ahly aux Zamalek promet donc.
En maître également, Tanguy remporte le championnat au Sénégal.
Le club de Rufisk est sacré champion pour la deuxième fois de son histoire après son succès 1-0 sur la pelouse de Génération Foot au terme de la 25e et avant-dernière journée de la Ligue 1. À une journée de la fin du championnat, Tungut, qui totalise 46 points, ne peut plus être rejoint par son poursuivant direct, le Djaraf, qui est resté à 42 points, puisque battu 2-1 par l'US Wakam.
Et puis pour finir, Élisée, en RDC, l'OTP Mazembe devra attendre la dernière journée du championnat pour être sacré.
Tout à fait, Rosine. La faute à sa défaite de 2-0 à Kindu face à Banema Union. D'ailleurs, sa première défaite dans ses playoffs après 13 journées. Les Corbeaux comme 32 points, 3 de plus que leur bourreau du jour, qui au passage, avec ce succès, valide leur qualification pour la Ligue des Champions. Lors de l'ultime journée, Mazembe joue à domicile contre Jeunesse Sportive de Kinshasa, pendant que Maniema sera en déplacement sur le terrain de Lubumbashi Sport.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les assises nationales ont décidé ce week-end de prolonger la transition de 5 ans. C'est la principale décision de cette rencontre qui a rassemblé plusieurs représentants venus de diverses régions du pays. Des participants aux assises estiment que les travaux se sont déroulés dans la transparence et la courtoisie. Mais des analystes disent être surpris de cette durée de 5 ans. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Après les premières assises en octobre 2022 ayant désigné le capitaine Ibrahim Traoré président de la transition pour 21 mois, la transition prend fin en juillet prochain. Les forces vives, comme on les appelle, les différentes composantes de la société devront se retrouver pour 2 jours pour décider de la suite de la transition. Sauf que pour les présentes assises, les avis sont partagés. Salifou Kabouré, doctorant à l'université de Ouagadougou.
Elle devrait normalement aboutir à un changement de régime pour peut-être permettre à une diversité d'acteurs pour gérer les problèmes du pays.
Massi Kongo, entrepreneur en transformation agroalimentaire, juriste d'affaires.
Ce que nous sommes en train de traverser, je peux dire que c'est beaucoup de perte de temps. On aurait dû s'en passer, même si on va aller discuter au niveau de l'Assemblée législative et puis accorder un temps. Selon moi, on n'avait même pas besoin de ces assises. On aurait dû passer par l'Assemblée législative et puis prolonger et puis qu'on prenne le temps, qu'on arrête de se caresser. Vous savez, à tout moment, on prend 1 an, on n'arrive pas à faire quelque chose, et 2 ans, on n'arrive pas à faire quelque chose. On n'a qu'à se donner beaucoup de temps pour bien construire et asseoir des bonnes bases.
Pour cet analyste, le pays aborde ce rendez-vous dans un contexte d'anxiété, de peur, et on s'achemine vers un rendez-vous manqué. Adama Bayala, analyste politique.
Les assises nationales, par essence, sont une rencontre qui devrait rassembler l'ensemble des forces vives de la nation. De ces assises, du moins, devrions-nous sortir avec une charte qui va régenter la vie de la nation sur une période. Quelle est cette période-là? Ce sont ces assises qui devraient le trancher. Nous craignons fort que les Burkinabés, dans leurs composantes, ne soient pas représentés à ces assises. Nous craignons fort que ces assises ne se transforment in fine à un conclave qui réunit les partisans du MPSR.
Plusieurs organisations ont exigé la levée de la suspension des activités des partis politiques et aussi certaines restrictions qui pèsent sur les organisations de la société civile. Les partis de l'ex-majorité ont déjà annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces assises dans ce format et ont demandé leur report. Les partis de l'ex-opposition, eux aussi, semblent emboîter le pas. Affaire à suivre donc. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Du 23 au 25 mai, s'est tenue dans la capitale malienne la 24e édition du Forum de Bamako, une rencontre d'intellectuels et de chercheurs venus du monde entier pour aborder sans concession les problématiques de l'heure. Cette année, il s'est agi de voir ou revoir la culture sous tous ses aspects et considérer son apport dans la quête de réconciliation, de paix et de développement. Notre correspondant Mohamed Danyoko nous fait le point.
Une belle brochette d'intellectuels africains a répondu une fois de plus au rendez-vous du Forum de Bamako sur les bords du fleuve Djoliba pour parler de la culture et de son apport pour un monde et un continent africain en paix et réconcilié. À la leçon inaugurale du professeur Aliou Sall, ont suivi plusieurs panels, dont un modéré par Amadou Tidiane Wone, qui, il y a 20 ans, était ministre de la Culture du Sénégal. Il nous livre sa vision de l'apport de la culture à la paix et au développement.
Le monde décrit souvent l'Afrique, mais sans la prise de parole des Africains. Il est temps que les Africains, de plus en plus, écrivent leur propre narratif et donnent au monde la vision que le monde devrait avoir d'eux-mêmes et non la vision que le monde ou le regard que le monde porte sur eux.
C'est pour justement contribuer à changer ce narratif que l'ancien ministre des Cultes du Mali, Tierno As Diallo, propose qu'au Mali, la culture soit utilisée pour fédérer, stabiliser, afin de contribuer au développement souhaité.
Nous ne pouvons parler de la civilisation de l'universel, comme dirait Senghor, sans venir avec ce qui fait notre identité. Mais pour que cela soit, il faut d'abord que nous soyons dans l'esprit de la réconciliation.
Pour une vision plus globale, le Maroc, à travers l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, forme plusieurs centaines d'imams venus de plusieurs pays du continent dans l'objectif de changer de narratif sur l'islam, selon Abdelhak Bassou du think tank Policy Center for the New South, basé à Rabat.
Quand vous formez des imams, des morshidats, des gens qui sont à la rencontre de la population, vous participez à former cette culture, si vous voulez, de la tolérance, parce qu'aujourd'hui, notre religion musulmane, tout le monde nous met à l'index, disant que ce sont... Parce qu'il y a certains de nos frères qui se trompent, donc on est tous mis dans le même panier.
Professeur d'architecture dans des universités japonaises, le docteur Ousoubi Sakho du Mali dit s'être inspiré du pays du soleil levant sur la façon dont la culture peut aider les pays du continent africain à aller de l'avant.
La culture est vraiment notre mot-clé pour penser à soi-même. Et pour aussi harmoniser nos différences, parce que nous, nos problèmes, on avait essayé d'uniformiser la culture. C'est ça le problème. Maintenant, on commence à comprendre que c'est pas comme ça. Chacun reste dans sa culture et on essaye de se comprendre les uns les autres.
Mettre en œuvre les recommandations de cette édition et revenir parler l'année prochaine de la crise énergétique, une problématique qui, sans être à l'ordre du jour, s'est invité dans beaucoup de panels. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, l'industrie du poisson est dominée par l'importation du tilapia venu de Chine, alors que le poisson est le premier aliment de consommation des Ivoiriens. Le pays n'arrive à couvrir que 15% des besoins de sa population en poisson local. Un manque à gagner pour l'économie ivoirienne. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo.
Au marché Gourou d'Adjamé, il est difficile de trouver du poisson local tiré des eaux ivoiriennes. Presque tous les poissons étalés par les commerçants proviennent de Chine. Ces derniers préfèrent revendre du poisson importé en raison de son coût moins élevé. Kadi Bakayoko, revendeuse de poissons.
Par rapport à ces pêches, par rapport à ce que, comme on dit, les Chinois, mon 10 milliards de prix gagnés. Il y a des gens qui disent 24 42 000, on ne s'en sort pas vraiment sur ça. Et nos cas, c'est de force. Ça ne va même pas du tout. On perd place, on perd tout, on ne s'en va pas.
Mohamed Thierro arrive tout de même à faire écouler son poisson. Ce pisciculteur ivoirien a installé une ferme dans la région du Haut-Sassandra. Le seul problème qu'il rencontre, c'est la quantité de poissons produits, car la demande en clientèle est trop élevée.
Dans notre région ici, dans le Haut-Sassandra, la demande est assez forte. Donc il est un peu difficile de satisfaire la demande. Concernant la satisfaction, il est un peu difficile de satisfaire la demande de la clientèle.
Maintenant, concernant nos attentes, si les institutions financières pouvaient essayer d'accorder des prêts aux pisciculteurs, ça serait l'idéal. Et aussi, si l'État pouvait subventionner l'achat des aliments de qualité et l'achat aussi des matériels de production, ça pourrait nous aider, nous, pisciculteurs, à pouvoir satisfaire cette demande forte de la clientèle.
La production nationale ne couvre que 15% des besoins de la population. Or, les Ivoiriens sont les premiers consommateurs au monde de tilapia congelé. Pour combler ce vide, l'État ivoirien compte porter la production à 700 000 tonnes de tilapia par an à travers des programmes comme le projet Fish for ACP. Sidi Thiemoko Touré, ministre des Ressources halieutiques.
Le projet Fish for ACP vient opérationnaliser un dispositif qui permettrait de valoriser tous les métiers dans la production du tilapia, qui est le produit phare en termes de consommation de poissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au-delà des autres productions halieutiques par ailleurs.
Pour être autosuffisant, l'État ivoirien se donne jusqu'à 2030. Mais la population ivoirienne augmente et les défis sont encore plus importants. Pour l'instant, on continuera de voir des tilapias de Chine sur les marchés ivoiriens. Ange Bijounoménian pour VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM. en Côte d'Ivoire.
Au Bénin, la production, la distribution et la consommation de l'alcool en sachet sont désormais interdites. Un arrêté ministériel en date du 17 mai dernier siffle la fin d'un fléau qui décime tant de vies, surtout au niveau de la jeunesse, en raison du niveau élevé d'immersion de ce type de boisson au sein de la population béninoise. Les autorités pourront-elles réussir cette lutte qui s'annonce très compliquée? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
On consomme et puis la dose là, c'est plus fort que nous. Il faut chercher un moyen pour nous empêcher de consommer.
Un appel au secours d'un jeune habitué aux boissons alcoolisées qui entraîne de nombreux décès au Bénin.
C'est fait à base de comprimés, c'est à base de formol.
Les gens ont des produits, ils font des combinaisons, ceci plus ceci, ça donne ça.
Il n'y a pas cette semaine-là, on ne va pas enterrer un jeune. Ça, c'est inquiétant parce que les bras valides sont en train de partir.
Autant de raisons qui ont poussé Shadia Limatou Assou, ministre de l'Industrie et du Commerce, a interdit toute activité autour de ces produits. D'ailleurs, les députés, toutes tendances confondues, appellent à des actions fortes contre l'alcool frelaté.
Il y a tramadol, dissolution formol et diazépam qui tuent aussi nos populations.
Au sein de la population, certains applaudissent la décision et appellent le gouvernement à aller jusqu'au bout.
Ce n'est même pas une bonne chose parce que moi, je n'aime même pas ces boissons-là.
Selon moi, c'est une bonne idée. D'ailleurs, moi, je ne le prends pas.
Ces boissons-là, ça ne fait pas du bien pour l'organisme.
Mais pour d'autres, c'est encore une décision brusque dont la mise en application va entraîner des grincements de dents.
C'est un coup dur tant pour celle qui fait cette vente et aussi pour ceux qui en prennent.
C'est vrai que c'est toxique pour la santé, mais il y a d'autres qui utilisent ça pour pouvoir travailler, pouvoir dormir, ils prennent ces boissons comme c'est pas cher.
Tiger, Tombo, Ginger et autres, ces produits n'ont aucun secret pour Ernest, dont le gain journalier est d'environ 100 000 francs CFA en semaine et beaucoup plus à partir du vendredi jusqu'au dimanche. Mais lui-même n'en consomme pas.
Comme moi, je vends, j'achète seulement, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Comme moi, je ne prends pas, je ne peux pas dire que c'est comme ça.
Le bénéfice qu'Ernest se fait n'est rien comparé à ceux que José se fait. Après plus de 20 ans au Cameroun, il est rentré au pays pour se spécialiser dans la vente des boissons alcoolisées frelatées, en sachet ou non.
Je vous assure que ce business est très porteur pour tout le monde. C'est vrai que quand on en abuse, il y a toujours des effets néfastes.
Et pourtant, selon Rodrigue Elegbert, conseiller en alimentation et en nutrition, tous les indicateurs sont au rouge dans les zones de forte consommation de ces genres de boissons.
Les indicateurs de sécurité alimentaire, de retard de croissance sont toujours les plus élevés par rapport à la situation au niveau national. Et je crois qu'il ne peut pas en être autrement lorsque les interventions se font sur un terrain d'alcoolisme aggravé.
La phase la plus critique de cette décision sera la répression où des saisies et des arrestations seront opérées. Un drame social en vue puisque des milliers de personnes vivent de ce commerce. Mais devant les désastres enregistrés, l'interdiction reste la seule issue possible. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Monezelo à son micro. Firmin Koyaweda a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.